grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa maqaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mawni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir à vous depuis le studio Tamani. 16 juillet 2014, une date très attendue a retenu et pour cause, le gouvernement du Mali reprend les négociations avec les groupes armés cette fois-ci à Alger. Après la signature de l'accord de Ouagadougou par le gouvernement de transition conduit par le professeur Diangouna Traoré le 18 juin 2013, il était stipulé dans le même accord que les discussions devant aboutir à un accord définitif seraient conduites seulement 60 jours après l'élection d'un président. La situation a évolué alors en dents de scie avec des moments fatidiques comme les événements des 17 et 21 mai 2014 à Kidal, suivi du cessez-le-feu obtenu par le Mauritanien Mohamed Ould Aziz, le président en exercice de la CEDEAO. Depuis hier donc, Modibo Keïta, représentant spécial du chef de l'État et plusieurs membres du gouvernement parmi lesquels le ministre de la Réconciliation, de l'administration territoriale, celui des affaires étrangères sont à Alger. Sont également présents les principaux groupes armés MNLA, HUA, MAA et le groupe d'autodéfense signataire des accords de Ouagadougou. Alors, les attentes vont-elles combler la promesse des fruits de la paix? C'est la grande question à laquelle nous tenterons de répondre pendant ces 45 prochaines minutes. Pour ce faire, nous avons fait appel à Amadou Aya, secrétaire politique du parti Yelema. Monsieur Amadou Aya, bonsoir.
Bonsoir, Souleymane.
À Monsieur Seydou Diawara, Seydou Martin, président du parti Lumière, parti de l'opposition. Monsieur Diawara, bonsoir.
Bonsoir.
À Ibrahim Achanga Maïga, du mouvement Gandakoy, il nous trouvera en cours de chemin. Et Atay Ak Mohamed, membre de la commission de la communication du MLLA, au téléphone. Alors, pour le premier round des négociations, il s'agit de restaurer le climat de confiance entre les protagonistes à l'identification des revendications et à dégager une feuille de route pour les négociations. Alors, est-ce possible aujourd'hui, M. Diawara?
Bon, la négociation, je pense qu'on va essayer.
Quand même, moi, je ne suis pas sûr de la négociation.
Uh-huh.
Oui.
Uh-huh. Allô, allez-y. Comment?
Bonsoir, chers auditeurs.
Uh-huh.
Permettez-moi de...
Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de restaurer un climat de confiance entre les différents protagonistes d'abord?
Oui, mais vous me permettez quand même en ce mois béni de Ramadan et de formuler mes voeux les meilleurs à l'ensemble du peuple malien pour une paix durable, enfin, au Mali. Et pour revenir à votre question, je pense que la question ne se pose pas. Effectivement, et la négociation est une réalité et elle est possible.
Oui, Monsieur Diawara.
Parce que moi je dis, on va négocier sur quelle base et qu'est-ce qu'on a besoin de négocier?
Oui, justement, c'est la deuxième question, l'identification des revendications.
Oui.
Oui, selon vous, qu'est-ce qu'on peut avoir comme identification des revendications des groupes armés aujourd'hui?
Oui.
Oui, allez-y.
Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème du Nord, normalement, on va tourner en Alger encore et nous allons finir à queue de poisson. Et que je pense que le problème du Mali aujourd'hui doit être résolu en France. Ce n'est pas dans la sous-région, je pense.
Pourquoi en France?
Pourquoi en France? Voilà. C'est le Mali qui a demandé à la France de rentrer en 61, n'est-ce pas? Bon, le problème du Nord, je pense que les MNLA pensent que la terre les appartient et qu'ils ont un soutien. Et s'ils ont un soutien aujourd'hui, ce soutien-là se trouve en France. Et que la négociation, je pense que le MNLA est en France. Et que le Mali doit essayer de tout faire, tout mettre en œuvre pour aller en France et négocier et démanteler le réseau du MNLA en France. C'est ce que je pense.
M. Amadou Aya, c'est votre opinion?
Pas du tout. Pas du tout parce que vous saviez que cette négociation, comme vous l'avez rappelé, est la suite logique de l'accord prisonnier de Ouagadougou entre les signataires, n'est-ce pas? Et vous avez tout à tantôt rappelé les péripéties qui nous ont amenés aujourd'hui à avoir une délégation aujourd'hui à Alger. Alger a été toujours partie prenante en tout cas dans les négociations. Donc, on peut dire que sur le plan géostratégie, l'Algérie représente, en tout cas, un poids, représente une confiance de part et d'autre des protagonistes. Donc, je pense que Alger est bien indiqué pour, n'est-ce pas, accueillir ces négociations.
Ok. Ataï Ag Mohamed, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, M.
Alors, l'Algérie est l'endroit le mieux indiqué pour les négociations, l'autre part la France. Mais d'ici là, est-ce que c'est possible aujourd'hui de rétablir un climat de confiance entre les groupes armés et le gouvernement malien?
D'abord, comme je le fais chaque jour, je tiens à vous dire que nous ne sommes pas que des groupes armés.
Nous groupes politico-militaires.
Militaires, okay. Exactement. Okay. Et ensuite, tellement, c'est que je pense que les mesures de confiance aujourd'hui ont fait leur preuve. On est en train de progresser. Nous sommes aujourd'hui avec déjà la première vague de libération des prisonniers du Débor. Du côté malien, nous devrions libérer à peu près 71 militaires maliens arrêtés lors des derniers affrontements. Et du côté de Bamako, il devrait libérer à peu près aussi une soixantaine de personnes civiles arrêtées lors du début de l'opération Serval, lors des foires qui sont pour la plupart des bergers ou des forains. Donc c'est déjà une grande avancée, une mesure de confiance. L'autre élément, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut aller au dialogue, il faut aller à la négociation. Les armes ont prouvé qu'elles ne suffisent pas. Donc tout le monde a bien des raisons pour comprendre qu'il faut renforcer les mesures de confiance et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Alors, vous avez le sentiment qu'on peut aboutir à l'identification des revendications des parts et d'autres et s'entendre sur une feuille de route?
Je pense que l'identification des revendications ne pose plus un problème. D'ailleurs, elles sont déjà identifiées, les revendications. Elles ont été déjà assez claires, juste qu'il y a eu des concessions. Au contraire, il y a eu des concessions dans ces revendications. Sinon, au début, comme les MNA étaient pour l'indépendance, il y en a qui étaient pour une autonomie, il y en a qui étaient pour une forme, mais aujourd'hui, il y a eu des concessions énormes de part et d'autre. Et ce sont ces concessions-là qui ont permis d'identifier les revendications. Nous avions une plateforme politique que nous avons déjà remis à l'AMINUSMA, déjà remis à la CEDEAO, à l'Union africaine et à l'Algérie. Cette plateforme, elle dit clair, elle dit beaucoup de choses. Les autres mouvements aussi d'autodéfense, qui, je ne sais pas pourquoi, ils ne font pas confiance à leur gouvernement, qui doit être représenté par les médiateurs de la République. Je ne sais pas pourquoi ces mouvements aussi ont des revendications parallèles. Ils n'ont qu'à se rajouter à leur gouvernement. Et je pense qu'aujourd'hui, les revendications sont assez claires de part et d'autre. Ce n'est plus ça le problème.
Vous ne comprenez pas ces mouvements d'autodéfense dans leurs revendications?
Pas que je ne comprenne pas. Je pense que s'ils reconnaissent l'État de Bamako, le pouvoir central de Bamako, pourquoi ne pas faire confiance à leur gouvernement et de l'accompagner dans la négociation au lieu de constituer un bouclier à part?
Ok. Et vous, les revendications, par rapport aux revendications, à quel niveau vous avez fait des concessions? Quelques points.
Nous avions renoncé à l'indépendance immédiate de l'Azawad.
Immédiate.
Nous avions, en tout cas, les autres mouvements aussi sont revenus sur les revendications de Sharia. Ils sont tous d'accord sur
la laïcité de l'État.
Donc, sur des concessions énormes.
D'accord.
Ensuite, nous avons aussi renoncé à l'usage de la force, parce que jusqu'ici, et même les derniers événements, la force a été utilisée par les Côtes d'Ivoire en premier. Nous avions, à un moment donné, même si on n'a pas compris pourquoi on l'a fait, on a utilisé la force. Mais après, nous avions renoncé à cela. Mais maintenant, vous voyez que c'est plutôt la partie malienne qui pense que par la force ou par l'usage des milices ou des mercenariats, des fois louches en matière de leur métier sur le terrain, pense qu'il peut reprendre des forces sur le terrain. Donc, tout ceci, ce sont des concessions que les acteurs étrangers qui ont bien les renseignements, parce qu'il faut le savoir, les États-Unis, la France ou l'Union européenne n'ont pas besoin de Bamako pour savoir la vraie information du terrain. Et aujourd'hui, ils savent que nous avons fait des concessions, ils savent que tout a été bloqué par Bamako. Aujourd'hui, par exemple, on vous dit que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale a bloqué les fonds parce que l'UDK a détourné 3 milliards par rapport à l'achat d'avions. C'est archi faux. Les Maliens ont vu 12 milliards disparaître sur le compte des paradis, mais ils n'ont pas bloqué de fonds. Ils l'ont bloqué parce qu'ils savent que Bamako doit obligatoirement aller à la négociation. Sinon, il n'y aura pas de fonds étrangers pour le développement.
Je pense que...
D'accord. Donc, vous liez tous ces problèmes-là au fait que les négociations ne sont pas engagées.
Oui. Pardon, excusez-moi.
J'ai dit, vous liez le fait que le FMI et la Banque mondiale aient bloqué leur deuxième tranche de décaissement. Vous liez ça à l'affaire de la non-négociation.
Quelque part, c'est ça. Quelque part, c'est ça. Tous ces acteurs, ces banques, ces partenaires n'étaient pas continués à financer et à mettre un fonds au profit d'un État qui ne devait pas aller au dialogue et qui ne devait pas voir de façon claire ce qui se passe.
Monsieur Attaher est dans le secret de Dieu. Quand vous liez le déblocage, n'est-ce pas, des fonds du FMI et de la Banque mondiale par rapport au dialogue, ça veut dire que vous êtes dans le secret de Dieu.
Claire.
Je pense que, monsieur Attaher, je vous ai écouté, vous avez une mémoire courte parce que quand vous dites que vous avez fait des concessions, vous n'avez pas fait des concessions. L'accord préliminaire de Ouagadougou a été très clair. Là où vous avez apposé votre signature, vous avez reconnu la laïcité, vous avez reconnu l'unicité, vous avez reconnu la forme républicaine du Mali. Ça, c'est très clair. Dès lors que vous reconnaissiez dans ce document la laïcité, l'unicité, le caractère laïque de la République du Mali, je pense que vous reconnaissez la constitution du Mali. Vous conviendrez
avec moi, monsieur Aïe, que les accords de Ouagadougou doivent nous servir à avancer aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans les discussions. Effectivement. Alors, les protagonistes sont en Algérie. Je voudrais passer la parole à un autre invité qui est dans ce studio. Je vous en prie, monsieur Aïe.
Permettez-moi de le rappeler, monsieur Ibrahim Aïe Changa,
Vous prenez le terrain en marche. Alors, est-ce que les protagonistes sont en Algérie pour parler? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de trouver un terrain d'entente, un climat d'entente entre les différents protagonistes, l'État, les groupes armés, les mouvements d'autodéfense?
Merci et je dis bonsoir.
Vous représentez le Gandakoy dans ce studio.
Ah, ok. Bon, d'accord. Sinon, je peux représenter plusieurs faces. Je crois que quelquefois, je soutiendrai aussi la position du gouvernement parce que je suis quand même du gouvernement. Et je dis donc bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir aux panélistes. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un stade où je pense que nous pouvons bien trouver un accord entre les différents protagonistes. Parce que vraiment, avec tout ce qui s'est passé, il y a eu quand même des rencontres à Alger qui ont permis aux différents progrès, c'est-à-dire les groupes armés, de se mettre d'accord. Parce qu'on sait que c'est quand même des groupes qui n'avaient pas la même philosophie aussi. Quand on prend le MNLA, quand on prend le SEIA, quand on prend le MAA, plus les autres mouvements d'autodéfense qu'il y avait, chacun avait sa position. Mais le gouvernement avait dit clairement, nous voudrions qu'il y ait une plateforme de concertation, que ces mouvements-là, d'abord, se rencontrent entre eux et rédigent leur plateforme de revendication qui sera donc soumise au gouvernement. Et c'est avec cette plateforme-là que le gouvernement va maintenant ouvrir les débats avec eux. C'est ce qui s'est passé. Et à partir de demain matin, donc les débats, les discussions vont commencer. Et comme le collègue l'a dit, je crois qu'il y a des aspects sur lesquels on ne reviendra pas. C'est-à-dire la forme républicaine de l'État.
Nous allons revenir la deuxième partie du débat.
Ok. Donc, pour me résumer, je dis aujourd'hui, je ne vois vraiment pas ce qui peut empêcher, dans la mesure où nous pensons que nous sommes tous des Maliens, nous avons tous accepté cela. Peut-être c'est la forme de conduite de la gestion de l'État qu'on va débattre en fond et en large.
Donc c'est possible de pouvoir dégager une feuille de route pour les négociations?
Je pense que la feuille de route, c'est bien possible. Et les négociations jusqu'à la signature d'un accord avec les différents mouvements armés, je pense que vraiment, il n'y a pas aujourd'hui vraiment d'obstacle qui pourrait en tout cas empêcher cela.
Monsieur Diawara, vous êtes du même avis?
Non, moi je pense que l'obstacle, c'est le MNLA.
Comment ça?
Quelqu'un qui est manipulé ne peut jamais prendre sa responsabilité.
Pourquoi vous dites qu'ils sont manipulés?
Ils sont manipulés, ils viennent et le dire tout de suite à Taïr.
Comment ça?
Et pourquoi il a parlé de l'FMI, le Fonds mondial? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait très bien que il y a quelqu'un derrière eux qui menace aussi l'État.
Non, bon, moi, on ne veut pas rentrer, on veut pas rentrer dans le. Monsieur, Mohamed, vous avez la parole, Pas de polémique, hein.
Il ne parle pas dans le secret. Il parle dans la cohérence des faits. Nous avions connu énormément de fonds détournés au Mali et nous savions combien. Il faut être juste analyste et réaliste pour comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'en même temps où on presse vraiment quoi aller négociations, on bloque des fonds. Ça, c'est assez réaliste. Et nous savons pourquoi nous le disons, parce que nous avons aussi l'information à notre côté. Okay. Nous ne sommes pas isolés de l'information internationale.
Ok, monsieur Ataï Ag Mohamed, nous allons observer la pause, nous allons observer un moment de pause, après nous allons vous reprendre.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné, 91 MHz. Et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz. Issaber de Niafunke, 96.3 MHz.
Pour la deuxième partie de ce débat, je rappelle que nous sommes toujours avec M. Amadou Aya, secrétaire politique du parti Yelema, Diawara Sedou Martin, président du parti Lumière, parti d'opposition, Ibrahim Achanga Maïga du Gandakoy, un mouvement d'autodéfense, et Ataï Ag Mohamed, membre de la commission communication de Yamela au téléphone. Pour la deuxième partie de ce débat, la feuille de route proposée par le gouvernement tient à l'intégrité du pays, la laïcité de l'État, l'unité nationale, le développement des régions du Nord, mais surtout l'esprit du pardon. Vous y comprenez quelque chose? Comment avoir et donner le pardon aujourd'hui? Monsieur Achanga Maïga, Ibrahim Achanga Maïga.
Bien, en ce qui concerne le pardon, je pense que Ataï Ag Mohamed doit bien me comprendre. Nous sommes du même milieu. Nous vivons dans la même zone. Nos ancêtres, nos arrière-grands-pères ont vécu ensemble. Il y a des liens très séculaires qu'il y a entre Touareg, Arabe, Peul, Songoy, au niveau des régions du Nord. Nous avons toujours vécu en symbiose. Comme on le dit, chaque Sonreï a son Touareg et chaque Touareg a son Sonreï. Il en est de même pour les Arabes, il en est de même pour les Peuls. Est-ce que cela aujourd'hui, on doit mettre fin à tout ça aujourd'hui? Je pense que non.
Il faudrait qu'on... Vous posez la question à Ataï Ag Mohamed.
Je pose la question à Ataï Ag Mohamed. Est-ce qu'il peut vivre au nord aujourd'hui, à Gao, à Bourem, à Ansongo, à Menaka, même à Kidal?
Et à Douanza.
À Douanza, partout. Est-ce qu'il peut vivre sans un Sonreï?
Ataï Ag Mohamed, vous avez une réponse?
Je réponds à cette question.
Je lui réponds.
Oui.
Est-ce que quelque part, il avait un communiqué du MLA qui dit que nous combattons les Songaï ou les Sonreï?
Non,
nous sommes en guerre contre l'État central de Bamako.
Voilà.
Nous allions... C'est ça le truc.
Le pardon est possible. Le pardon est possible.
Notre antagoniste, notre belligérance, c'est l'État central de Bamako.
L'État central,
vous allez échouer.
L'État central, c'est Songaï. Vous allez échouer.
Le MLA est un mouvement multi-ethnique. Ce n'est pas que Touareg.
Non, c'est le Touareg.
Ordonnons le débat.
Non, il n'y a pas que Touareg. Nous avons des Punta qui sont des
communautés. Qui a le débat?
Nous avions des Songaï qui sont avec nous. Nous avions des communautés Touareg avec nous. Donc,
ouais, monsieur,
une communauté.
Monsieur, attendez, Ag Mohamed, ma question, elle est précise. S'il vous plaît, ma question est bien précise. Est-ce que le pardon est possible aujourd'hui?
Il n'a nullement été question de rompre les relations séculaires entre les communautés, jamais. Car le MNLA est un mouvement qui combat l'État malien, ses symboles, administration, pas les communautés.
Ouais, est-ce que le pardon est possible aujourd'hui?
On n'a jamais ouvert des feux contre les communautés. Regardez en Afrique les guerres de rébellion.
Vous ne nous donnez pas des leçons d'histoire sur ce tableau, monsieur Attaïer.
S'il vous plaît.
Vous ne devez pas nous donner des leçons d'histoire.
Laissez-lui parler.
Oui, mais parce qu'il
est-ce que vous répondez à ma question? Est-ce que le pardon est possible? Et sous quelle forme ce pardon doit venir?
Non, attends. Les parents, c'est entre des gens qui sont... Écoutez, il ne faut pas confondre les choses. Ne jouez pas à ce jeu des Bamako qui veut faire croire que nous sommes un mouvement qui ethnique ou qui... Non, mais écoutez, ça ne se passera plus.
Si non, il s'agit des groupes armés. Il s'agit des groupes armés.
Non, écoutez, non. Oui. Ne changez pas de sujet. Mm-hmm. N'essayez pas de créer une diversion là où elle n'est pas. Il n'y a pas de diversion à créer. L'EMNLA est un mouvement politico-militaire qui est en belligérance avec l'État central de Bamako. Et il a des revendications politiques et pas communautaires.
Attends. Ouais, la paix, qu'est-ce que la paix, le pardon à voir avec l'esprit communautaire? Moi, je vous demande aujourd'hui, il y a eu des exactions, il y a eu des événements au nord. Est-ce que le pardon est possible aujourd'hui entre les fils du Mali?
Mais absolument.
C'est de ça dont il s'agit.
Il n'y a pas de confrontation entre les fils du Mali. Il y a une confrontation entre une tendance politique et l'État central.
L'État est composé que des Touaregs.
De Gendaïzo ou de Gendakoy, qui est sur le plateau. Ce que je veux lui dire, c'est que c'est lui, malheureusement, qui est en train de tomber dans une manipulation qui le pousse à faire croire que les MNLA est un mouvement Touareg qui combat des Songhaï. Chose qui n'est pas réelle. Et il le sait très bien, très consciencieusement, comme lui et comme tous ces politiques qu'on a rencontrés, ils savent très bien que les MNLA n'a jamais dit qu'il est en guerre contre les Songhaï et ne l'a jamais fait.
Ok, donc on va passer. Monsieur Amadou Aya, on va écouter le point de vue d'Amadou Aya.
Je voudrais lui répondre sur cet aspect.
Et qu'est-ce que le pardon, c'est possible aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir le pardon et donner le pardon aujourd'hui?
Oui, on ne peut pas aller vers la paix sans se pardonner. C'est pour cela que dans la feuille de route, il y a effectivement le pardon. Et il ne peut pas y avoir de pardon. Sans, je pense que vous,
Monsieur Ataï, s'il vous plaît.
Monsieur Ataï, je pense que vous avez une mémoire très courte.
Vous avez besoin de revisiter
l'histoire de ce pays. Excusez-moi,
répondez à la question. Est-ce que le pardon, on peut le donner aujourd'hui? On peut l'avoir.
Mais on peut l'avoir à la fin de cette négociation.
Et sous quelle forme?
Oui, nous avons parlé du dialogue inclusif. Uh-huh. Le dialogue. Les accords aujourd'hui, les rencontres d'Alger sont des discussions entre le gouvernement et les groupes armés. Nous avons dit que l'essentiel, n'est-ce pas, de ces négociations vont se passer aussi en terre malienne avec, n'est-ce pas, toutes les communautés. Là, le dialogue inclusif. Nous avons même parlé que le Mali, cette signature, même, c'est-à-dire ces accords devront être soumis, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale pour que cette fois-ci, les accords que nous allons signer soient le dernier pour aller vers une paix durable.
Ouais, donc, Martin, est-ce que le pardon, on peut le donner aujourd'hui, l'avoir, et sous quelle forme? Est-ce que sous la forme de la justice ou sous la forme de la justice transitionnelle?
Bon, moi, je pense que d'abord, il faut que les communautés du Nord s'unissent d'abord. Il faut qu'ils se comprennent entre eux. Parce que le MLA pense
que... Le pardon ne peut pas contribuer à ça?
Bon, le pardon, ça peut contribuer, mais il faut que le MLA contribue à ça, à cela.
Le débat n'est pas dirigé contre le MLA. Le MLA n'est pas le seul groupe armé, le seul groupe armé au Nord.
Non, le pardon est possible.
Non, ne tombons pas dans ça. Il s'agit des groupes armés, encore que le MLA et le MLA n'est pas le seul groupe à négocier à Alger. Donc, on ne tombe pas dans certaines nuances. Voilà. Voilà, M. Ibrahim Achanga.
Ateg, bonsoir. Je crois qu'on se connaît bien. Je suis dans Songo et je sais de quoi je parle. Je viens d'arriver dans Songo où j'ai été pour le forum pour la paix et la réconciliation. J'ai dirigé le forum et ça s'est très bien passé. Il y a eu des gens et je vous dis seulement une anecdote. Le premier jour quand je partais au nom du gouvernement cette fois-ci, on m'a dit plus d'Arabes dans le cercle dans Songo. Moi, je leur ai dit, en Songo est une terre malienne. Il y aura des Bozo, il y aura des Somono, il y aura des Arabes, il y aura des Touaregs, il y aura tout le monde. Personne ne peut empêcher à un Malien d'être sur une terre malienne. Et ça, c'était au mois de novembre passé. Et Dieu merci, je reviens dans Songo il y a 2 semaines. On a fait venir les Arabes. Ils ont présenté leur pardon et les populations d'Ansongo aussi ont présenté leur pardon aux Arabes. Vous voyez? Et je vous assure que c'était émouvant. Ne me coupe pas.
Pourquoi ces populations on finit par considérer que ce sont des Arabes qui sont les problèmes? C'est parce que la communication de l'État.
Ce n'est pas au moment de l'État. Pardon, Ataï. Quand j'ai parlé, je n'ai pas parlé de que le MLA est uniquement composé de Touareg. Mais c'est que de façon générale, au moment de l'invasion, est-ce que tu sais très bien que quand, par exemple, on a envahi Gao, les pillages, les viols, les massacres qui se sont déroulés.
Il y a eu
des massacres. Ça, quand même, tout le monde le sait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, les gens sont rebiffés contre.
Donc, je retiens grosso modo. Attends, s'il vous plaît, je retiens grosso modo que le pardon est possible. Le pardon est possible. On peut donner le pardon. Alors, la question suivante est celle-ci. Comment développer aujourd'hui les régions du Nord? Est-ce à travers une décentralisation renforcée ou poussée? Non, vous partez à cette question-là. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de développer les régions du Nord? Et comment? Est-ce que ça, dans une décentralisation poussée, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
La prérogative, c'est de trouver un accord de paix durable, un accord politique qui va mettre en accord les belligérants politiques. Je dis bien les belligérants politiques. Il faut aujourd'hui les identifier. Qui est en belligérance avec l'État? Qui est du côté de l'État? Qui est du côté de l'adversaire? C'est ça qu'il faut savoir aujourd'hui. Donc il faut séparer la négociation, les pourparlers inclusifs, la justice, la réconciliation et le développement. Ce sont des phases différentes. Il ne faut jamais mettre la charie avant les billes. Il ne faut jamais mettre la charie. C'est ce qu'il y a eu le Mali en 90. On a intégré quelques brebis de gens dans la fonction publique en pensant qu'on a réglé un problème d'antécédent politique. Ce n'est pas la solution. Il faut être courageux aujourd'hui pour affronter les problèmes de l'Azawad. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, je pense que le développement, d'ailleurs, le vrai développement, je parle de ce vrai développement,
viendra
que lorsque l'État central de Bamako comprendra qu'il faut octroyer aux populations qui souffrent dans les tempêtes et les déserts et le chaud et le froid de l'Azawad leur autogestion à la base, leur permettre d'élire des hommes qu'ils choisissent, pas des hommes qu'on leur impose à partir de Bamako. C'est ça le vrai développement. Et c'est de ça qu'il viendra la vraie justice, parce que là, les gens vont se mettre dans les textes qu'ils vont eux-mêmes élaborer.
Donc à travers une décentralisation poussée?
Pas du tout. Ça a déjà échoué. Et c'est parce qu'il y a eu le pacte national de 92, derrière le pacte national qui a fait profiter toutes les populations de cette partie du Mali, sans distinction aucune. On n'a jamais vu un programme de développement qui s'appelle programme de développement des Touaregs. Et pourtant, en 90, il n'y a que les Touaregs qui ont pris les armes. Mais dans les accords, c'est toutes les populations qui ont bénéficié de tous les programmes de développement.
Okay, Monsieur Ibrahim Assanga Maïga, d'accord, Monsieur Ibrahim Assanga du Gandako, il va se prononcer aussi.
Le Gandako, c'est des populations de l'Azawad, c'est des populations du Nord.
Moi, je ne suis pas de l'Azawad. Non.
Ouais, ça, c'est votre point. C'est votre point de vue.
Je ne suis pas de l'Azawad. L'Azawad, on connaît l'Azawad, c'est une petite portion triangulaire au nord de Gundam. Qui s'appelle, c'est un mot arabe vous connaissez très bien. À Menaka, on appelle, la zone de Menaka s'appelle Azawak. La zone de Kidal s'appelle Ifoas. La zone d'Ansongo, chez nous, c'est le Dandi. Vraiment, il y a des spécificités qui sont données. Ne prenez pas tout le Nord et l'appelez Azawad.
Par rapport au développement,
je suis très bien placé pour parler du développement.
Monsieur Atta, il faut nous écouter aussi.
Écoutez, s'il vous plaît. Peut-être que c'est en même temps instructif et pédagogique. Au niveau des régions du Nord, en 90, quand les MFIA ont pris les armes, ils ont dit on a pris les armes parce que le Nord n'est pas développé. Moi, j'étais le spécialiste. Nous avons fait un inventaire. Il y avait plus de 200 millions de dollars qui étaient à l'époque au niveau des régions du Nord. Je viens. Non, écoutez-moi bien. Et
attends, s'il vous plaît.
Les différents projets qui étaient au niveau des régions du Nord, on a recensé, on a évalué, il y avait plus de 200 millions de dollars. Nous avons dit, au lieu de faire une table ronde pour les régions du Nord, il faut essayer de faire un schéma institutionnel pour voir comment on va gérer ensemble ce fonds. Nous avons mis les projets en place. Et quand on a mis en place, un projet ne peut pas ne peut pas évoluer dans l'insécurité. Vous savez très bien que chaque fois qu'on met un projet en place, il y a les vols de... Qui vole les véhicules? Qui enlève les personnes? Non, je ne dis pas les Touaregs.
C'est pour dire tout simplement qu'il y avait l'insécurité.
Et dans l'insécurité, on ne peut pas développer. Ensemble, vous et nous, il faut qu'on se donne la main. Pour mettre en place une sécurité et faire en sorte que, à travers la sécurité au niveau des régions du Nord, on peut développer les régions du Nord.
D'accord, nous allons observer un moment de pause.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, Radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Alors, les récents combats vont-ils impacter sur les négociations pour aborder la troisième partie de ces débats ou s'agit-il des combats de positionnement par rapport à ces mêmes pourparlers? Et comment faire la différence entre les groupes armés dont les revendications sont reconnues plus ou moins comme légitimes, des groupes djihadistes, des narcotrafiquants? Monsieur Ahmed Aya, secrétaire politique du Parti Yelema.
Vous savez, dans l'accord préliminaire de Ouagadougou, il s'agit de ceux qui ont adhéré à cet accord et de ceux qui ont accepté et qui vont accepter de déposer les armes. Notre ami vient de dire tout à l'heure que Ils ne sont pas des groupes armés. Je crois que c'est des groupes armés.
Il dit groupes politico-militaires.
Ce n'est pas des groupes politico-militaires, c'est des groupes armés. Dans aucun document, on a parlé de groupes politico-militaires. Nous sommes en République du Mali. La République du Mali, pour être, c'est-à-dire reconnue un groupe politique, il y a une voie à suivre. Si on n'a pas suivi cette voie et qu'on prend les armes, on est un groupe politique.
Monsieur Amadou Aya, je voudrais vous le rappeler, ce n'est pas un débat entre vous. Et M. Ataï, c'est un débat pour lequel vous devrez éclairer l'opinion. Et ma question est précise, est-ce que les récents combats, les récents événements au Nord vont-ils impacter sur les pourparlers d'Alger? Et comment faire la différence aujourd'hui entre les groupes armés et les narcotrafiquants?
Non, les récents événements, on ne peut pas dire qu'ils vont impacter sur les négociations. Dès l'instant qu'aujourd'hui, il y a, des documents disponibles, le gouvernement est en place, sur place. Les groupes armés qui ont accepté d'aller, à ces négociations sur place, je ne pense pas que les récents événements puissent impacter sur les négociations qui vont s'ouvrir demain. Par rapport au distinguo, c'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de faire la part des choses. C'est parce que ce sont des individus qui se mouvent entre, ces différents mouvements. Mais les groupes, c'est-à-dire qui ont signé, que ce soit le HUA, le MA et les autres groupes qui ont signé, et qui adhèrent, à l'accord préliminaire de Ouagadougou, il n'y a pas de problème pour, aller à la négociation avec eux.
Monsieur Diawara, c'est votre vision?
Bon, moi, ma vision est claire parce que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que les groupes armés du Nord veulent. Jusqu'à présent, ils n'ont pas dit clairement ce qu'ils veulent. Souvent, ils disent qu'ils ne sont pas pour l'indépendance, mais en réalité, ils veulent quoi? Comme Ataï est là, il peut me répondre par rapport à ça.
Non, le débat n'est pas à ce niveau aujourd'hui. Okay. Le débat, comment faire le distinguo entre les groupes armés qui ont fait des revendications, à partir desquelles on va entamer les négociations, et les narcotrafiquants, les djihadistes, aujourd'hui au Nord?
Mais c'est le même groupe.
Monsieur Achanga.
Non. On peut dire que ce n'est pas les mêmes groupes. Attends, écoutez-moi bien. Je peux dire que ce n'est pas les mêmes groupes. Il y a eu l'accord de préliminaire de Ouaga. Et aujourd'hui, les accords, c'est on ne confond pas. Et suivez-moi bien, on ne confond pas. Je dis aujourd'hui, nous sommes dans des négociations. Ces négociations aboutiront à un accord. Tous ceux qui vont signer l'accord, qui vont respecter l'accord, seront désarmés, seront cantonnés, seront redéployés. Peut-être certains deviendront des militaires, d'autres des opérateurs économiques, etc. En tout cas, l'État verra, selon les accords qui vont être signés, comment il faut en tout cas les redéployer. Maintenant, tous ceux qui ne vont pas maintenant accepter d'adhérer à cet accord, on les considérera désormais comme des hors-la-loi. Et ces hors-la-loi maintenant verront devant eux les groupes signataires de l'accord, l'armée malienne et les forces étrangères.
Monsieur Ataï Ag Mohamed, ça veut dire qu'une fois les accords signés, vous êtes prêt aussi à vous engager pour la sécurité, pour sécuriser un peu le Nord?
Mais nous sécurisons déjà. Regardez, depuis qu'on occupe depuis 3 mois, est-ce que vous entendez parler d'exactions ou quoi que ce soit? Avant, les gens qui étaient poussés à faire des exactions étaient les gens utilisés par Bamako. C'était les Moujaou. Et l'État malien a confié la population de Gao aux Moujaou qui lui a coupé les bras. C'est ça la vérité. Maintenant, on va répondre aux questions.
Donc vous allez contribuer à l'opération du tri entre les groupes armés qui ont des revendications légitimes et les djihadistes.
Votre question, vous dites, est-ce que ce qui s'est passé récemment va compromettre les assises du BNG, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Et comment faire le distinguo entre les groupes armés et les djihadistes, les narcotrafiquants?
Je viens. Ce qui s'est passé l'autre jour, la tentative de récupération d'un assise par les groupes milices ethnico-racistes et narco-terroristes utilisés par Bamako.
Ça n'engage que vous. S'il vous plaît, monsieur Attab, pas de langage de ces gens. Non. Ça passe de langage de ces gens, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous retirez le mot. Nous sommes une station bien respectée, bien écoutée dans tout le Mali et au-delà. Non, je vous en prie, pas d'expression de haine. Non, je ne suis pas d'accord.
Je m'excuse, monsieur le directeur. Maintenant, ce qui est, c'est qu'il y a des milices. C'est vrai, non? Vous avez dit que c'est des milices, n'est-ce pas?
Moi, je ne sais pas, ça n'engage que vous.
Je viens, il y a des milices du général Alain Gamou et des milices qui
sont... C'est vous qui le dites.
Mélangés à des milices du narcotrafic qui sont dans le TLMC, ont essayé de jouer le rôle de l'armée malienne en attaquant les positions du MNLA à Anassis. Elles ont été mises en débandade et à Anassis et à Tabankort où ils sont maintenant. Et à l'instant où je te parle, ces milices-là mettront bientôt le drapeau du Haut Conseil, tout de suite. Ils vont bientôt mettre le drapeau du Haut Conseil pour se protéger du MNLA. Vous allez le voir tout de suite dans les prochaines heures. La vraie information, ce n'est pas les trucs de grains de Bamako ou les gens qui écoutent une station de RFI. Moi, je vous dis ce qui se passe. C'est au moyen de digérer la vérité et d'accepter d'aller vers la vraie paix. Pas la paix de la mascarade, pas la paix des utilisations.
Et est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que tous les acteurs souhaitent la paix, aussi bien au nord qu'au sud?
Nous souhaitons la paix au plus fond de nos cœurs.
Est-ce que vous voyez les signes perceptibles?
Nous voulons la paix qui puisse garantir. Permettez, vous posez une question, attendez que je réponde à votre question, monsieur.
Oui.
Nous voulons la paix qui puisse garantir celle d'aujourd'hui, celle de demain et celle dans 15 ans. Pas une paix baïonnée avec des petits moyens de passer par là des connaissances. Ce n'est pas ça la paix. Ça s'appelle des temporisations. On veut la vraie paix. Et cette paix-là, pour qu'on puisse y aller, il faut que chaque partie comprenne qu'il faut faire des concessions. Oui. Chaque partie comprenne qu'il faut affronter les vrais problèmes, pas les usages de faux. C'est ça la vérité. Okay. Aujourd'hui, personne n'est prêt à mettre ses fonds, ni même pas à Sikasso, tant qu'il n'y a pas une stabilisation sérieuse. Parce qu'il n'y a pas de pays ami. Ceux qui nous accusent d'avoir des soutiens, pourquoi on n'a pas droit au soutien? Est-ce que le Mali sera sauvé des djihadistes s'il n'y a pas de soutien? Mais c'est normal qu'on aille chercher du soutien. Dis-moi où nous sommes acceptés sur toutes les tribunes du monde comme étant des acteurs, des interlocuteurs. Pourquoi pas que notre gouvernement ou le gouvernement de Bamako nous accepte parce que nous aussi nous avons à offrir. Nous ne sommes pas des pourriniers.
Ok. Monsieur Ibrahim Achanga, est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'il faut faire des concessions pour qu'il y ait la paix? Est-ce que vous percevez aujourd'hui des signes?
Dès qu'on va à des négociations, c'est pour faire des concessions les uns les autres, mais des conditions réalistes et des conditions faisables.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que déjà, on a posé des jalons en ce qui concerne les barrières, la barrière à ne pas dépasser. Ça, c'est OK. Maintenant, ce qu'on peut faire, tout de suite, quand Taher parlait de... que c'est la décentralisation qui nous a amené à tout ça. Non, je dis non. La décentralisation, effectivement...
Non, 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 non,
Oui, d'accord. Donc, mais je voudrais seulement aller dire que aujourd'hui, nous sommes d'accord que la pratique, la façon dont on a géré la décentralisation nous a amené à certains problèmes. C'est la raison pour laquelle on a tenu des états généraux de la décentralisation.
Okay.
Les conclusions aujourd'hui font que justement on veut que justement il faudrait que il y ait vraiment la vraie démocratie et que tout le monde puisse participer vraiment aux élections des élus communaux, que chacun se sente représenté et qu'aussi qu'on tienne compte de nos coutumes, de nos us, de nos valeurs, aussi qu'on va intégrer désormais dans la gestion de la cité.
Ok, dernier tour de table, comment vous voyez aujourd'hui concrètement le rôle de la commission Vérité, Justice et Réconciliation dans la paix pour le Mali? Oui, commission Vérité, Réconciliation, Justice, comment vous voyez son rôle dans le processus de pacification, de paix du pays?
Elle est mort-née.
Elle est mort-née. Ok.
Oui, parce que je vous dis, on a essayé de mettre la charrière avant les bœufs, ça ne se passe pas comme ça.
Oui.
Une réconciliation, c'est fait par les partis en belligérance. Elles font des commissions mixtes ensemble, elles travaillent pour conseiller les peuples. Et c'est pour ça que je dis bien.
Vous avez une minute.
Il faut distinguer les étapes.
Okay.
Il faut d'abord négocier, ensuite faire le pourparler inclusif de paix, ensuite la justice, ensuite la réconciliation et le développement.
Ok, monsieur Aya, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais je crois que c'est une bonne chose parce que notre ami sur le plateau est là déjà, qui est arrivé, n'est-ce pas, à avoir du pardon, n'est-ce pas, à partir de cette commission. Si, je pense que c'est utile aujourd'hui, après ce drame que nous avons vécu dans le nord de notre pays, que ces commissions puissent travailler concomitamment avec, n'est-ce pas, les négociations en cours. Je pense qu'il faut saluer, il faut encourager. Aujourd'hui, il est bon que des dogons que je suis soient peut-être, appelle mon cousin à terre pour dire que nous sommes tous maliens, que lui et moi, nous sommes des cousins, nous sommes des frères, nous sommes des maliens, nous avons reconnu la laïcité.
Monsieur Diawara, oui.
Bon, moi je pense qu'aujourd'hui c'est possible et je soutiens la commission et je demande à tous les groupes du Nord vraiment d'accepter et de coopérer avec le gouvernement pour pouvoir trouver une solution durable.
Monsieur Ibrahim Achanga Maïga Ganapoy, vous avez le dernier mot.
La commission Vérité, Justice et Réconciliation va travailler sur tous les dommages qui ont eu lieu depuis 1960 jusqu'à nos jours. Si quelqu'un pense que, à un moment, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, il a senti que quelque part, il a été lésé, où il a été brimé par l'État, il n'a qu'à donner toutes les preuves et la commission Vérité et Justice, en tout cas, se penchera pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et s'il faut mettre ça au niveau de la justice, on le mettra. S'il faut réconcilier ça par la société civile, ça va se faire.
Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est fini aujourd'hui pour le grand dialogue du jour qui était consacré aux négociations qui s'ouvrent demain à Alger entre le gouvernement de la République du Mali et les groupes armés. Nous avions sur le plateau Amadou Aya, secrétaire politique du parti Yelema, Diawara Sid Martin, président du parti Lumière, Ibrahim Achanga Maïga de Gandakoy, un groupe d'autodéfense, et M. Atay Ag Mohamed, membre de la commission communication de Yamela, au téléphone. Merci à vous et à bientôt.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.